Il est 22h, vous écoutez Europe 1. Et tout de suite, le journal de la nuit.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Un coup de main aux gros rouleurs les plus pénalisés par la flambée des prix à la pompe. Le gouvernement relève les indemnités kilométriques. Explication dans un instant. Un demi-million de cas de Covid en 24 heures. À une semaine seulement de la première levée des restrictions sanitaires, on cherche toujours le pic de la vague Omicron. Emmanuel Macron vise la droite et l'extrême droite pendant son déplacement en Haute-Vienne. Il défend le maintien des services publics et le devoir de mémoire face à la barbarie. Le dialogue plutôt qu'une guerre en Europe. Paris et Berlin appellent à la désescalade avec la Russie dans la crise en Ukraine. Mais en cas d'agression, la riposte sera là, prévient Emmanuel Macron. La cérémonie des Césars dans un mois. Europe 1, partenaire de l'événement. Vous entendrez à la fin de ce journal Danielle Thompson, la présidente des Césars cette année. La météo, il faut s'attendre à de la grisaille sur les trois quarts du pays demain. L'invité éco, on sera avec le patron de Volkswagen France, alors que le groupe parvient à contourner la crise des semi-conducteurs. Et puis juste avant la libre antenne, les premières unes de la presse pour demain matin.
Europe 1.
Une partie d'entre vous a peut-être retrouvé le sourire à la station-service avec cette nouvelle aide gouvernementale contre l'envolée des prix des carburants. Jean Castex a annoncé cet après-midi une hausse de 10% du barème de l'indemnité kilométrique. C'est une mesure ciblée. Elle concerne 2,5 millions de foyers, Carole Ferry.
Alors ce sont les 2,5 millions de Français qui déclarent leurs revenus aux frais réels et qui sont imposables, car vous avez des contribuables qui déclarent leurs revenus aux frais réels, mais qui ne payent pas d'impôts. Et eux n'auront le droit à rien, car ce n'est pas un crédit d'impôt, mais bien une réduction d'impôt. Une réduction de 150 euros par foyer en moyenne, et qui va représenter un manque à gagner de 400 millions d'euros pour l'État. Une mesure qui a vocation également à inspirer les entreprises, selon le Premier ministre Jean Castex.
Au-delà des bénéfices immédiats, cette revalorisation a vocation également à servir de référence et donc potentiellement à se répercuter sur les indemnités kilométriques directement versées par les employeurs à leurs salariés qui utilisent leur véhicule personnel, indemnités qui sont par ailleurs, je vous le rappelle, défiscalisées.
Alors pour les entreprises, la hausse peut être revalorisée dès le mois prochain. Pour les contribuables, le gain se fera lors de la prochaine déclaration de revenus en avril sur les kilomètres parcourus durant l'année 2021.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. La mesure cible donc les Français qui utilisent beaucoup leurs véhicules dans le cadre de leur travail. Vous avez recueilli la réaction des automobilistes. Stéphane Burgat rencontre dans une station-service à Marseille. Cette annonce, eh bien, elle fait des heureux. Hein.
Pour les gros rouleurs qui rentrent dans les cases, c'est une bonne nouvelle. Exemple avec Sylvie, elle habite dans le Var, elle vient travailler à Marseille 5 fois par semaine à raison de 50 km aller-retour à bord d'un vieux véhicule essence âgé de 20 ans. La concernant, cette revalorisation sera forcément intéressante.
Ben, ça va être génial parce que là, moi, je dépense énormément d'argent en carburant, d'autant plus que ma voiture n'est pas toute jeune. 220 euros d'essence par mois parce que ça a beaucoup augmenté et qu'en plus, bon, la mienne, elle consomme un peu plus forcément. On le ressent nettement sur le budget.
Cette mesure ne concernera pas tout le monde, loin de là. Et en réaction, eh bien, beaucoup grincent des dents. C'est le cas de Thierry qui est agent immobilier.
On va continuer à payer un maximum. Moi, je me suis lancé dans un nouveau métier il y a six mois et aujourd'hui j'ai doublé mes frais de carburant, donc ça va peut-être m'empêcher de continuer à le faire. C'est aussi simple que ça.
Et comme cet automobiliste, beaucoup espéraient à l'inverse un abaissement de la taxation de l'État sur les carburants qui aurait profité à tout le monde. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Un demi-million de cas de Covid en 24 heures. La vague Omicron a franchi ce soir ce cap symbolique en France. 520 000 nouvelles contaminations. Cela montre aussi que le pic épidémique est encore devant nous, alors que la première levée de restrictions annoncée par Jean Castex intervient dans une semaine seulement, le 2 février prochain. Le gouvernement, lui, parie toujours sur le vaccin. L'idée maintenant, c'est d'accélérer sur la vaccination des jeunes enfants. Le ministère de la Santé a dévoilé aujourd'hui une série de mesures, en particulier l'accord d'un seul parent redevient suffisant pour la vaccination des 5-11 ans. Céline Géraud, il y a encore du chemin à faire.
Effectivement, il y a un vrai retard à l'allumage en France. 216 000 enfants, soit un peu moins de 4% des 5-11 ans, ont reçu leur première injection, contre 52% en Espagne et 28% en Italie. Plusieurs explications. Pas simple déjà de trouver un rendez-vous après l'école, le week-end. Il y a aussi l'appréhension des parents sur les effets secondaires, sur l'utilité de cette injection alors que l'on va atteindre le pic de l'épidémie. Beaucoup aussi préfèrent attendre le vaccin Pfizer contre Omicron attendu en mars. Ce matin, Alain Fischer, le président du Conseil d'orientation de la vaccination, l'a martelé. La vaccination est nécessaire pour les enfants. Elle est pertinente, efficace et sûre. Il s'appuie sur les données américaines où la campagne a démarré en novembre. Sur 8 millions d'enfants vaccinés, 14 cas seulement de complications cardiaques. Et pour relancer la campagne, 100 000 créneaux supplémentaires seront proposés d'ici fin février dans les 605 centres de vaccination où l'on accueille les enfants. Les autorités sanitaires ont aussi élargi la liste des professionnels de santé autorisés à administrer les doses aux enfants, comme les infirmiers, les pharmaciens, les dentistes ou encore les sapeurs-pompiers, mais à condition d'avoir été formés.
Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1. Deux destinations pour Emmanuel Macron qui achevait aujourd'hui en Haute-Vienne son déplacement dans le Limousin. Deux destinations et deux cibles, Jacques Serret. Vous avez suivi Emmanuel Macron pour Europe 1. Sans jamais les nommer, le chef de l'État a très clairement ciblé la droite et l'extrême droite.
Oui, depuis la Haute-Vienne, Emmanuel Macron envoie des cartes postales à ses adversaires. À Saint-Léonard de Nobla, devant des agents de la fonction publique.
On doit remettre du service sur le territoire parce que c'est meilleur pour tout le monde.
Il se fait le défenseur des fonctionnaires. Et la missive est adressée à Valérie Pécresse qui veut supprimer plus de 150 000 postes.
La clé est aussi de pouvoir remettre des services au public partout sur notre territoire. Qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, des services administratifs, etc.
Quelques instants plus tard, changement de cadre, le ton se fait plus solennel. Le président des corps, Robert Ebras, 96 ans, dernier survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane, commis par les nazis le 10 juin 1944.
Ceux qui nous font courir le risque de l'oubli nous engagent sur un seul chemin, celui qui nous ferait prendre le risque de répéter cette histoire. Je veux ici vous dire que le combat que vous avez mené, c'est celui que nous allons poursuivre.
Une déclaration pleine de sous-entendus dont il sait qu'elle sera perçue comme une attaque contre Éric Zemmour et Marine Le Pen. S'il n'est toujours pas officiellement candidat, Emmanuel Macron prend toute sa part dans cette campagne.
Jacques Serret en Haute-Vienne pour Europe 1. Valérie Pécresse est officiellement en campagne. Elle, la candidate Les Républicains, était aujourd'hui à Tours pour détailler son programme en matière de justice. Le maillon faible, selon elle, de la sécurité dans notre pays, Alexandre Chauveau, vous avez suivi Valérie Pécresse pour Europe 1, la candidate qui promet un plan hors sec pour la justice.
Oui, Valérie Pécresse veut porter le budget de la justice à 9 milliards d'euros, soit 50% de budget en plus sur 5 ans. La candidate parle de moyens exceptionnels, recrutement de 6 000 juges et greffiers et de 2 000 procureurs, ouverture de centres de détention provisoires pour faire exécuter les courtes peines et création de 20 000 nouvelles places de prison. Enfin, peine plancher pour les délinquants et suppression des allocations familiales pour leurs familles.
Je veux faire de ma présidence celle de l'impunité zéro. Et pour ce faire, je mettrai en place un plan de sauvetage et de modernisation de la justice. Un plan sur 5 ans qui redonnera les moyens à l'autorité judiciaire de juger vite et bien.
Juger vite et bien, Valérie Pécresse veut ainsi réduire les délais de jugement des délits du quotidien à moins de 6 mois et généraliser les comparutions immédiates pour les flagrants délits, autant de mesures adressées à un électorat en attente de fermeté sur ces questions et qui constituent pour la candidate un angle d'attaque supplémentaire envers Emmanuel Macron.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire. Avec ses nouveaux signes d'inquiétude à l'est de l'Europe, la Russie montre ses muscles. Des manœuvres militaires russes ont démarré aujourd'hui même sur le pas de la porte de l'Ukraine. Une démonstration de force, 6000 hommes, des avions de chasse, des bombardiers. L'Europe peine à parler d'une même voix dans cette crise ukrainienne qui enfle de jour en jour. Mais ce soir, la France et l'Allemagne affichent leur unité. Emmanuel Macron est à Berlin. Première rencontre avec le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz. Et première ligne commune, l'appel à la désescalade, l'appel au dialogue.
Comme tu l'as parfaitement dit, cher Olaf, nous appelons l'un et l'autre avec beaucoup de force à une désescalade des tensions par un dialogue exigeant avec la Russie et pour travailler à une stabilité par une solution politique sur la question du Donbass et la situation en Ukraine. Nous préparons en parallèle la réaction commune et la riposte en cas d'agression, et comme cela a été dit, s'il devait y avoir une agression, la riposte sera là et le coût sera très élevé.
Voilà pour cette mise en garde d'Emmanuel Macron ce soir depuis Berlin. Pendant que Joe Biden précise de son côté ses intentions, le président des États-Unis ne souhaite pas envoyer des soldats en Ukraine, mais il est prêt à des sanctions qui visent personnellement le président russe Vladimir Poutine. Un Français lourdement condamné en Iran, Benjamin Brière, écope de 8 ans de prison pour espionnage. Il est déjà détenu depuis près de 2 ans dans ce pays. La justice iranienne lui reproche d'avoir pris des photos de zones interdites dans un parc naturel avec un drone amateur. Blandine Brière, sa sœur, est désespérée par ce verdict. Sur Europe 1, elle lance un appel à l'aide.
Aujourd'hui, on est complètement à terre avec une décision pareille, mais on est aussi très en colère de ce qui se passe. C'est un procès complètement injuste. Il n'y a aucune preuve, il n'y a rien du tout. Et là, on est clairement dans un schéma où Benjamin est otage des autorités iraniennes. Maintenant, c'est clair, quoi. Aujourd'hui, la diplomatie française est la seule à savoir ce qu'il faut faire pour le sortir de là. On ne peut pas le laisser comme ça. On ne peut pas ne rien dire face à une telle accusation. C'est désormais au gouvernement français de mettre son poids dans la balance et de faire en sorte qu'un otage politique sorte de là. Et aujourd'hui, on réagit, on tape encore plus du poing sur la table. On a besoin que notre gouvernement bouge. L'Iran demande quelque chose là, donc il va falloir répondre à ça et faire en sorte que justice soit faite et que Benjamin sorte de cet enfer.
Blandine Brière avec Arthur Pereira. Le Quai d'Orsay a réagi à cette décision du tribunal révolutionnaire iranien. Il juge cette condamnation inacceptable, condamnation que rien ne permet d'étayer. Les thérapies de conversion deviennent un délit pénal. Le Parlement a définitivement adopté cet après-midi une proposition de loi LREM pour sanctionner ces soi-disant thérapies. En fait, des pratiques qui visent à imposer l'hétérosexualité aux personnes lesbiennes, gays, bi et trans. 40 ans après la dépénalisation de l'homosexualité, eh bien, ce nouveau délit punit ces pratiques de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. La SNCF fait le ménage dans sa nuée d'applis. À partir d'aujourd'hui, il n'en reste d'ailleurs plus qu'une. Elle s'appelle SNCF Connect. Et qu'il s'agisse d'infotrafic, de recherche d'horaires ou d'achat de billets, Aurélien Fleureau, c'est donc la même appli, ouf, qui répond maintenant à tous nos besoins.
Oui, l'objectif affiché est plutôt réussi, c'est de simplifier les choses. Avoir toutes les informations au même endroit, pouvoir réaliser toutes les opérations sans changer 3 fois d'application ou de site, que l'on achète un billet TGV ou TER, que l'on souhaite modifier ou se faire rembourser un trajet par exemple. Le principal changement, quand vous arrivez sur SNCF Connect, vous tapez votre demande comme sur un moteur de recherche avec quelques mots-clés et votre identifiant enregistré, ça simplifie encore plus les choses. Eh bien, l'algorithme peut vous apporter la réponse la plus pertinente, explique Anne Pruvot, directrice générale de SNCF Connect & Tech.
On est sorti du formulaire stéréotypé de quelle origine, quelle destination, quelle date, quelle heure, qui suis-je. La première chose que l'on vous demande, c'est que voulez-vous faire? Est-ce que vous voulez aller quelque part? Est-ce que vous voulez de l'aide sur quelque chose? C'est là aussi où on met en œuvre l'intelligence artificielle.
La mise à jour est donc disponible depuis ce matin. Elle se fait soit automatiquement, soit c'est à vous de la lancer vous-même. Vous découvrirez un design bleu nuit très différent du rouge, de l'orange habituel. Et avec ce nouveau service numérique, la SNCF espère attirer encore plus de voyageurs dans ses trains et faire passer le chiffre d'affaires de 4,3 milliards à 6,5 milliards d'euros d'ici 2025.
Aurélien Fleureau, Europe 1, partenaire de la cérémonie des Césars. Rendez-vous le 25 février, dans un mois tout juste, donc pour cette 47e édition qui sera diffusée en clair sur Canal+, mais aussi, et c'est là la nouveauté, en direct intégral sur Europe 1. La liste des nominations sera dévoilée demain matin, mais l'Académie des Césars a révélé aujourd'hui le nom de la présidente de la cérémonie. Elle a signé les scénarios de nombreux monuments du cinéma français, La Grande Vadrouille, La Boum, pour ne citer que. Il s'agit de la réalisatrice Danielle Thompson.
C'est une cérémonie que j'ai toujours beaucoup aimée, qui, j'espère, va de nouveau faire rêver beaucoup de générations de comédiens, parce que c'est ça que je trouve magnifique dans ce principe des Césars. On entend souvent des jeunes comédiens, ou des vieux comédiens d'ailleurs, qui vous disent qu'ils ont regardé cette cérémonie quand ils étaient enfants et que ça leur donnait envie de faire du cinéma.
L'Académie rendra hommage aux disparus, évidemment. Jean-Paul Belmondo, Gaspard Ulliel.
Bien sûr, je sais qu'il y aura forcément des hommages pour ces merveilleux comédiens qui représentent d'ailleurs le cinéma français. C'est ça qui est formidable, de rappeler aux gens à quel point, finalement, en France, on fait des beaux films. Hein.
Voilà, Danielle Thompson qui présidera le 25 février prochain la 47e cérémonie des Césars, événement en partenariat avec Europe 1. Florent Pagny annule tous les concerts restants de la tournée de ses 60 ans. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, le chanteur annonce qu'il souffre d'un cancer du poumon. Il précise que la tumeur ne peut pas s'opérer et qu'il doit maintenant suivre 6 mois de chimio et de radiothérapie. La fin de l'aventure australienne pour Gaël Monfils, éliminé de l'Open de Melbourne en quart de finale. Le 20e joueur mondial a livré bataille en 5-7 tout de même pour s'incliner finalement face au numéro 7. L'Italien Matteo Berrettini qui rejoint Rafael Nadal en demi-finale. Gaël Monfils lui rêve toujours de gagner un grand chelem, mais à 35 ans, il devra encore attendre.
À l'arrivée, encore une fois, je suis moins fort tennistiquement, physiquement, mentalement. Pourtant, je suis bien. Hein. J'ai été moins fort encore une fois et je le suis depuis ça fait quoi, 18 ans que je suis là. Je suis moins fort. Mais je dirais même pas que j'apprends. J'encaisse. J'encaisse et Je sens qu'une fois, je vais y arriver, j'espère. Quoi. Enfin, du moins, c'est ma volonté, peut-être que j'y arriverai jamais. Et en plus, quand je te dis, je veux que ça clique une fois, attends, on parle d'un truc, c'est gagner un quart de finale. Quoi. Donc après, il faut gagner une demi. Demi, j'en ai joué deux dans ma vie. Après, il faut jouer une finale, j'en ai jamais joué. Donc t'imagines, tu commences à monter la montagne, mais c'est mon kiff, c'est mon challenge personnel.
Gardez courage, encore et toujours, Gaël Monfils avec Axel May. Le temps pour ce mercredi, Marlène Durel, là aussi il faut garder de l'espoir puisque la tendance est à la grisaille demain.
Hein. Oui, j'espère que vous prenez votre vitamine D3 tous les soirs, Alexandre.
Pas non, tous les soirs, non.
On manque de lumière un petit peu là.
Ça, je vous l'accorde.
Oui, beaucoup de grisaille. Alors à l'exception des massifs montagneux, c'est vrai que la grisaille sera très présente dès demain matin sur la moitié nord du pays et dans les plaines du sud-ouest, avec encore quelques brouillards givrants, là où les températures seront bien négatives. Et elles peuvent être localement à l'origine de phénomènes glissants sur les chaussées. Elles seront parfois tenaces, notamment en plaine d'Alsace, dans le Val-de-Saône et autour de la Garonne. Quelques températures négatives, par exemple, je sais que ça va descendre jusqu'à moins 7 degrés dans le Cantal, moins 4 à Limoges, à Nevers, à Lyon, à Dijon, moins 1 à Toulouse et à Marseille. Quelques températures donc négatives. Et puis dans l'après-midi, là, beaucoup plus de soleil sur le pourtour méditerranéen après un réveil sous les nuages. Le beau temps, il sera bien là, bien présent dans les régions alpines, en Provence, en Auvergne, dans le Limousin, jusqu'à l'intérieur du Poitou et jusqu'au Berry. Plein soleil également sur les Pyrénées, le Piémont, ça remonte jusqu'aux Landes. Et puis on n'oublie pas les sommets des Vosges et du Jura. La grisaille va se maintenir entre la Normandie et les frontières du Nord en passant par l'Île-de-France. Et puis entre ces deux zones, on a une petite zone intermédiaire où rien n'est moins sûr. Avec un peu de chance, il fera beau, avec pas de chance.
Ah bah, on est là, décidément.
Désolé, la prévision est trop incertaine. Et bon, Météo France est hésitant à ce niveau-là. Température maximale prévue, un minimum de 2 degrés à Bourges, à Nancy et à Besançon. Nous aurons 3 à Angers, 5 à Montauban et Rouen, 6 à Paris, 7 à Bordeaux, 8 à Clermont-Ferrand, 13 à Tarbes, 14 en Corse, jusqu'à 16 à Perpignan.
Merci beaucoup Marlène Duret. Nouveau point météo à minuit à suivre sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Didier Hamot pour Top à Wall Street. A tout de suite.
Europe 1, Alexandre Lemaire.
Top à Wall Street à 22h18 sur Europe 1 avec Didier Hamot. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com. Didier, Wall Street hésite ce soir en restant à l'écoute bien sûr de la crise ukrainienne.
Hein. Oui, toujours sur fond de tensions géopolitiques bien sûr. En attendant aussi le verdict de la Réserve fédérale américaine, ce sera demain soir. La Fed qui réunit actuellement son conseil monétaire. Le Dow Jones, moins 0,19%, une petite baisse, 34 298 points. Le Nasdaq recule quand même de 2,2%, 13 539 points. Malgré IBM qui regagne 5,6% à $136.10 après des comptes rassurants. Du côté des technologies, ça baisse quand même un petit peu. Hein. Google, moins 3%, Amazon, moins 3% aussi. Baisse de 2,6% de Microsoft, moins 1,2% Tesla, moins 1% Apple, sous les $160. Les financières, en revanche, remontent avec American Express, plus 8%, $173, après des comptes trimestriels meilleurs que prévu chez Amex, avec un bénéfice net de $1,7 milliard. Et donc, ça entraîne aussi JP Morgan du côté des bancaires, hein, plus 1%, ou Morgan Stanley, plus 1% aussi à $99. Le pétrole en hausse, 1,6% de mieux, $85.40 le baril américain, ça remonte assez vite et ça entraîne Exxon en hausse de 2,5% et Shell aussi de plus de 4%. En revanche, c'est beaucoup plus calme sur l'euro qui revient sur les 1,13 face au dollar.
La bourse de Paris, elle a regagné un peu de terrain après sa lourde chute d'hier.
Petite hausse, un petit rebond de 0,74%, 6 837 points après sa chute, oui, de 4% hein, quand même hier. Le rebond a été emmené par les valeurs pétrolières dans le sillage donc du baril de brut qui remonte. Vallourec plus 8%, Technip FMC plus 6% après un nouveau contrat signé avec le Brésilien Petrobras. Morel et Prom plus 5% avec CGG. On a aussi du côté des bancaires la BNP plus 3%. Et puis Renault plus 3% aussi, 33,40 en vue d'une accélération sur le marché des véhicules électriques avec Nissan et Mitsubishi dans le cadre d'une grande alliance qui devrait être présentée demain et qui mettrait 20 milliards d'euros sur la table. Renault plus 3% ce soir à la clôture.
Exception du jour, Didier, le titre Orpea, les maisons de retraite, donc continue de plonger alors que le gouvernement s'est saisi du dossier.
Hein. Oui, moins 20%, 55,18 €, une forte baisse d'Orpea. Le gouvernement effectivement a convoqué le patron du groupe de maisons de retraite qui va devoir s'expliquer après les révélations donc d'un livre enquête qui sort demain sur la gestion du groupe Orpea. Ailleurs, les autres places financières remontent, un sursaut de 0,7% sur le DAX à Francfort, plus 0,9% à Bruxelles, plus 0,6% à Madrid, plus 0,2% à Milan. Le CAC 40 donc en hausse ce soir de 0,74%, 6 837 points.
Merci Didiamo. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne dans la crise des semi-conducteurs. Vous savez, cette pénurie mondiale de composants électroniques qui dure et qui fait patiner toujours le secteur automobile. Mais dans cette crise, eh bien, le groupe Volkswagen, lui, s'en sort plutôt bien. L'invité éco ce soir sur Europe 1, Xavier Chardon, président du directoire de Volkswagen Group France. Il répond à Emmanuel Duteil.
Bonsoir Xavier Chardon.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président du directoire de Volkswagen Group France. Ça regroupe bien évidemment les marques Volkswagen, mais aussi Audi, Seat, Cupra ou encore Skoda. Une année 2021, quand on regarde un petit peu vos performances, finalement très compliquée, mais pas si mauvaise que cela. On peut le résumer ainsi ?
C'est un bon résumé. Effectivement, on a eu un marché qui a été assez compliqué, un marché qui est stable et à un niveau relativement bas. Et dans ce marché, nous retrouvons des couleurs. Toutes nos marques ont progressé en termes de part de marché. Ça nous a permis d'enregistrer une croissance en volume de l'ordre de 7%. Et on a gagné pratiquement un point de part de marché. Donc, on consolide notre leadership de première marque importée. Donc, une année positive.
Une année positive, mais bien évidemment compliquée à cause de cette crise des semi-conducteurs. Tous les constructeurs sont concernés. Vous avez du mal à livrer les voitures. Soyez le plus honnête possible. Si je viens demain, par exemple, chez Volkswagen, acheter un peu le principal modèle, vous allez me dire que je suis livré dans combien de temps ? Dans 6 mois ?
Pas dans 6 mois. On livre plus rapidement. Si on parle de Volkswagen et que vous venez, par exemple, acheter une voiture comme une Golf ou un T-Roc, on va plutôt être entre 3 et 4 mois en fonction des motorisations. On a au sein de notre groupe des modèles où effectivement les délais peuvent aller au-delà de 6 mois. Mais dans le même temps, on a aussi des modèles qui sont disponibles à la vente ou des modèles qu'on livre avec des délais en dessous de 2 mois, ce qui est une situation relativement normale. Si je vous donne quelques exemples, une Skoda Fabia, un Volkswagen Taigo, notre dernier lancement chez Volkswagen, ou une Cupra Formentor, on est capable de les livrer sous 2 mois, voire certaines fois de trouver des voitures en stock. Donc on a des opportunités, mais il faut être flexible.
Alors il faut être flexible, mais quand est-ce que cette crise des semi-conducteurs va se régler d'après vous, Xavier Chardon ?
On aura certainement un premier semestre 2022 qui va être encore compliqué et chahuté. C'est certain que la 5e vague du Covid n'arrange rien.
Parce qu'on aurait fait cette interview il y a 6 mois, vous m'auriez dit « Ah, d'ici à la fin de l'année, ça va être bon ». On a l'impression que chaque constructeur, c'est pas vrai que pour vous, hein, mais que tous les constructeurs repoussent comme si finalement personne n'en savait rien.
Non, si on avait eu cette discussion il y a 6 mois, j'aurais peut-être eu une vision encore plus optimiste des choses. Là, maintenant, on commence à avoir des éléments qui sont un peu plus de l'ordre du rationnel. On sait qu'on va avoir 6 mois 2022 qui ont été compliqués. On a des perspectives qui sont plus positives sur la deuxième partie de l'année. Mais on a aussi commencé qu'on s'inscrit dans une situation qui est durable. On a aussi fait des arbitrages pour privilégier certains de nos clients, notamment les clients particuliers. Donc, on a diminué nos volumes de véhicules courte durée. Par exemple, on a prolongé des avenants. Donc, on a mis en place tout un arsenal de dispositifs pour répondre à cette situation et donner priorité aux clients particuliers ou aux sociétés qui ont besoin de mobilité.
Vous êtes là, la croisée de plein de révolutions dans le marché de l'automobile, le fait qu'on achète de plus en plus en leasing, donc on loue notre voiture, le fait qu'on se tourne de plus en plus aussi vers les voitures d'occasion dans le même temps, et puis bien évidemment de plus en plus vers les voitures électriques. Alors vous, du côté du groupe Volkswagen, vous avez décidé de taper très très fort, 52 milliards d'euros vont être dédiés à l'électrification de la gamme. Vous allez demain un constructeur 100% électrique ?
Alors, les 52 milliards sur le véhicule électrique, c'est effectivement un investissement qu'on n'a jamais fait et on est dans une mutation qui est très très forte. On ne va pas devenir un constructeur 100% électrique d'ici 2030. Nos ambitions, c'est d'être à grosso modo un peu plus de 70% de véhicules électriques, mais on aura encore des offres de véhicules thermiques. On a des vitesses qui sont un peu différentes en fonction de nos gammes. Clairement, Audi sera plus rapide pour la bascule sur l'électrique que Skoda. On n'a pas forcément des clients avec les mêmes pouvoirs d'achat. Donc ça, c'est le premier point. 50 milliards, c'est énorme, mais 50 milliards, c'est uniquement ce qu'on investit sur les véhicules électriques. Dans le même temps, on va investir plus de 30 milliards sur le développement du software. Parce que pour nous, il devient clé en termes de domaine de compétences. Dans les dernières années, on avait des compétences fortes sur notre maîtrise de boîte de vitesse, sur notre maîtrise de moteur. Demain, la maîtrise du software, elle est clé dans notre industrie. Et donc, nous, on a développé une société qui s'appelle Cariad. Cariad, c'est 10 000 développeurs qui vont travailler sur les softwares de demain.
Et pour nous, consommateurs, ça va changer quoi, du coup ?
Bah écoutez, avec ces 10 000 développeurs, on va développer des softwares qui vont vous permettre à votre véhicule de se mettre à jour de la même manière que ce que vous connaissez avec vos téléphones. C'est pas de la science-fiction, c'est déjà ce qui se passe avec nos derniers modèles de chez ID et de chez Audi. C'est-à-dire que tous les 3 mois, vous avez un véhicule qui va s'améliorer. Pour vous prendre des exemples concrets, par exemple la reconnaissance vocale qui s'améliore, qui devient plus fiable, des outils à la navigation qui vont mieux fonctionner, des échanges avec les concessionnaires qui vont ouvrir différents services.
Est-ce qu'avec ça, on peut avoir l'espoir que notre voiture neuve va arrêter de perdre de l'argent au moment même où on monte dedans une fois qu'elle est achetée ? Parce que, comme vous le dites, pour un téléphone portable, elle va se mettre à jour d'une certaine manière.
Exactement, c'est le point que je voulais évoquer avec vous. Ça, c'est une influence qui est très positive sur ce qu'on appelle la valeur résiduelle de la voiture. Donc, si on prend l'exemple de sa valeur de revente d'ici 3 ans, le fait qu'on puisse mettre à jour nos véhicules, mais même qu'on puisse proposer des options que vous n'avez pas forcément activées au départ, comme des phares au xénon ou des la navigation ou des aides à la conduite, ça va permettre d'avoir un véhicule qui reste plus d'actualité, moins d'obsolescence et moins d'obsolescence. Ça veut dire une meilleure valeur de revente et donc des mensualités qui sont plus faibles. Donc, oui. C'est tout l'intérêt de cette démarche.
Mais est-ce qu'à terme, vous resterez un constructeur de voitures ? Parce que là, on parle des softwares, donc des composants que l'on trouve, on parle de l'électrification. Mais avec tout ça, on va changer peut-être potentiellement moins souvent de voitures. Et puis, on voit bien l'appétence des jeunes qui est moins forte pour avoir un véhicule individuel. Est-ce que demain, on va acheter autant de voitures ?
Écoutez, la logique là-dessus, j'aimerais dire que le fait que les jeunes achètent moins de voitures ou passent moins leur permis de conduire, quand on regarde dans les faits, il ne faut pas non plus tomber dans un phénomène purement Paris intramuros. Moi, je suis originaire d'un petit village en Savoie, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de solution de mobilité, il n'y a pas de métro, et que quand les personnes ont 18 ans, la première priorité, c'est d'avoir leur permis, parce que c'est la réponse à une solution de mobilité qui passe par du véhicule d'occasion aujourd'hui. Tout l'enjeu, nous, dans le développement de nos offres, c'est de passer à location, vous l'avez dit, mais de passer à des formes type abonnement, hein, à la Netflix pour expliquer un peu plus concrètement ce qui se passe. On a démarré avec Seat, on vient de l'étendre maintenant avec Volkswagen. Ça veut dire que vous avez la possibilité de vous engager avec des mensualités, mais vous pouvez sortir de votre contrat sans aucun engagement. Donc c'est une flexibilité qu'on offre et on le voit avec Seat, on attire des populations qui sont beaucoup plus jeunes, en moyenne 10 ans plus jeunes que la moyenne du marché.
Eh bien merci pour tous ces détails, c'était Xavier Chardon, le président du directoire de Volkswagen Group France qui était avec nous ce soir. Nous on se retrouve demain 22h20 sur Europe.
Et merci à vous Emmanuel Duteil, on vous retrouve également demain avec Elisabeth Assayag de 13h à 14h pour La France Bouge sur Europe 1. Demain vous recevrez le patron de Longchamp.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
À la une de vos quotidiens, demain mercredi 26 janvier, Emmanuel Macron se retrouve sous pression dans cette campagne présidentielle. Mais il prend son temps, ça n'a pas échappé au Figaro. Décidé à briguer un second mandat, le chef de l'État, qui ne s'est toujours pas déclaré, joue sur tous les tableaux, écrit le Figaro. La question taraude la Macronie. Le président doit-il accélérer et se déclarer rapidement candidat à sa réélection ? Ou bien a-t-il au contraire intérêt à attendre mi-février et peut-être une embellie promise sur le plan de l'épidémie pour se lancer. En tout cas, une chose est sûre, il est désormais le dernier à ne pas avoir fait acte de candidature et l'attente pourrait lasser les Français. L'opinion s'intéresse justement à Alexis Kohler, la doublure du président en campagne entre le chef de l'État et le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Eh bien, les secrets d'une alchimie au cœur de l'exercice du pouvoir et de la conquête d'un nouveau mandat, c'est à lire demain donc dans l'opinion. Enfin, le bilan du quinquennat porté par l'emploi, les chiffres de l'emploi, c'est ce qu'estime le quotidien La Croix, alors que ces chiffres pour 2021, les derniers donc avant la présidentielle, doivent être publiés ce mercredi, entérinant un bilan fragile, mais globalement positif. Nous découvrirons ces chiffres ensemble demain. Bien naturellement, ce sera sur Europe 1, 22h30. Bienvenue si vous nous rejoignez.
Olivier Delacroix est avec vous, c'est la Libre Antenne.
Bonsoir mon cher
Bonsoir
ami,
Olivier.
Comment allez-vous?
Ça va très bien.
Bon, vous me paraissez bien guiré ce soir.
Ah, je ne sais pas, pas plus que d'habitude.
Tout va bien.
Tout va bien.
Mais si, vous voyez, en fait j'ai l'impression que c'est ma venue à chaque fois qui vous met de très bonne humeur.
Mais comment pourrait-on réagir autrement? Bah,
écoutez, ça fait plaisir. Voilà, une entreprise où il y a une ambiance formidable, vous voyez?
Toujours.
À chaque fois.
Toujours.
Nous sommes là, nous sommes heureux de nous voir, voilà, c'est génial.
Et de nous retrouver tous les soirs.
Exactement. Bon, tout va bien, pas trop froid.
Bien.
Parce qu'il fait très froid.
Vous trouvez à dehors, oui.
J'arrive en moto, il fait très très froid.
Oui. En moto, je veux bien croire, oui.
J'espère que vous, qui nous écoutez chez vous, vous êtes bien au chaud, puisque la soirée va se continuer. On retrouve Alexandre tout à l'heure à 23h. Et puis, nous sommes partis pour 2h30, mon cher. Encore un nouveau marathon pour ce soir. À tout à l'heure,
Olivier.